observé, ce qui n'a rien à voir avec le spéculum qui est miroir. Mais c'est pour regarder un petit peu loin. Dans le sens de spéculer, on ne connaît que le côté trivial, faire du profit rapidement. Mais spéculer, ça s'emploie, c'est un terme qui s'emploie aussi en philosophie, et c'est la recherche intellectuelle pour avoir une connaissance désintéressée. Or, on est tous des spéculateurs, parce aussi bien les galeristes que les collectionneurs, parce qu'un galeriste, quand il défend un artiste jeune, quand Georges Philippe a pris Gilles Barbier, il sortait des Beaux-Arts ou presque, il était inconnu, il a cru en ce travail. Donc, dans l'art, il y a les deux choses. Il y a la spéculation pour engendrer des profits, mais il y a aussi la spéculation intellectuelle. Et on ne peut pas ne pas lier, les deux sont liés dans l'art. Et il ne faut pas voir que le mauvais côté de la spéculation. Et quand on achète des jeunes artistes, que ce soit Antoine ou moi, on espère et on est tout content pour eux quand on ne peut plus les acheter, parce que c'est très bien pour l'artiste, puis aussi ça flatte notre ego, parce qu'on les a achetés au bon moment. Mais que ce soit les collectionneurs ou les galeristes, on spécule tous, mais dans le bon sens du terme.
Mais attendez.
Oui, c'est vrai que c'est un croisement toujours. Si on s'intéresse à l'art contemporain, c'est que finalement ce qui nous intéresse, c'est le côté aussi sociologique de la rencontre, d'apprendre tous les jours. C'est vraiment une partie de l'art où on n'a jamais terminé. J'étais chez une collectionneuse hier soir, je regardais ce qu'elle avait accroché, elle avait des jeunes artistes, ça sur un livre de Hervé Levenbro qui avait fait paraître, justement, il n'y avait pas de visuel à propos de ces artistes et qu'il y avait une sorte de retour au contenu. Puis je tombe sur la couverture de Beaux-Arts Magazine. Et là, je me suis interrogée, je voulais vous demander ce que vous en aviez pensé.
La couverture avec Xavier Veillon devant le château de Versailles, ça? Pour une fois que c'est pas Jeff Koons ou Maurizio Cattelan qui est à Versailles, on va pas se plaindre. Hein. C'est ce que disait Georges Philippe, c'est que la prochaine fois, ce sera Barbier. Non,
non mais
bien.
Alors justement, à un moment donné, vous avez été tellement gentil que vous n'avez même pas parlé de l'État.
Alors,
Voilà.
les collectionneurs,
Alors,
il faut pas oublier
est-ce
que
que
l'État
Versailles,
français.
c'est bien pour nos artistes dans ces circonstances-là? Est-ce que pour la France et le marché de l'art,
Il faut faire
c'est
feu
une
de
bonne
tout bois.
image?
Il faut faire feu de tout bois. Il faut être.
Ben là, j'ai des doutes.
Si, tout est bon.
Moi, j'ai beaucoup critiqué. J'ai même écrit un papier sur l'expo de Jeff Koons à Versailles. Et j'ai même critiqué le fait, parce que l'argument de Versailles était de dire que l'exposition était payée à 90% et que là, ça ne coûtait rien à l'État. Et j'ai même dit à Yagon que ça mettait en péril l'indépendance de l'État. Donc, moi, j'ai été extrêmement choqué par cette chose et par des conservateurs de musées qui mangent dans la main de puissance. Voilà. Mais après, c'est subjectif. On aime ou on n'aime pas Jeff Koons. Moi, j'aime pas. Donc, évidemment, c'était plus facile de critiquer. Mais je ne comprends pas exactement votre question.
Ça donne l'impression qu'on ne bouge pas, qu'on est dans une situation franco-française où la notion du symbole, et encore pour le coup monarchique, enfin, là, expressément, qu'il s'agisse de Veillon ou de la nôtre, hein, c'est pas la question, que ça soit comme ça un caractère d'actualité, comme si c'était une chose importante aujourd'hui, ça me paraît tellement, tellement anecdotique, tellement circonstanciel et peu important au regard international, qu'on en devient provinciaux au regard international. Moi, ça me désole. Désolée d'être aussi moraliste.
Je ne suis pas sûr que l'exposition de Jeff Koons à Versailles soit passée totalement inaperçue à l'international. Au contraire, moi, je crois qu'on en a beaucoup parlé dans la presse à l'étranger. Hein. Pour revenir sur ce que disait Antoine de Galbert, c'est vrai que l'exposition de Jeff Koons a été financée à 80-90% par des privés. C'est vrai que cette année, ça a été beaucoup plus difficile à financer l'exposition de Xavier Veillon. Et conséquence, on voit que les deux prochaines expositions seront extrêmement faciles à financer, vu qu'il s'agit d'une part de Murakami là, en 2010, suivi de Cattelan en 2011. Donc on voit très bien les mécanismes qui président au choix des artistes.
Je veux juste rajouter peut-être quelque chose aussi, c'est qu'on n'a pas parlé, on parle du marché, on n'a pas parlé de la mode. C'est-à-dire que le jour où l'art contemporain est à la mode, il faut se poser des questions et ça a beaucoup de soucis. Parce que c'est quelque chose qui est pour moi totalement contradictoire. Le fait que ce soit à la mode, tout le monde disait c'est merveilleux, tout le monde se met à devenir collectionneur, c'est pas normal. C'est grave.
Pourquoi ça vous paraît mal que ça devienne très populaire?
Ben, c'est une sorte de.
C'est pas
populaire, c'est mode. C'est
Non, parce
pas la même chose.
Ce sont des mots qui sont antinomiques, vous pouvez pas. L'art n'est pas à la mode.
Non, mais nous sommes tous ici, je pense, dans
Ça a eu du succès, moi je suis ravi que ça ait du succès, je suis ravi que les artistes réussissent et gagnent de l'argent. Moi je connais les artistes qui réussissent très bien. C'est pas de moi, je ne suis pas moraliste non plus. Et puis voilà, mais le phénomène d'une mode, c'est quelque chose de très grave, que ça entraîne des gens à collectionner alors qu'ils ne savent pas pourquoi. C'est eux qui sont des moutons de panurge, c'est eux qui ne savent pas quoi aimer. C'est une absurdité, c'est-à-dire qu'on est collectionneur, on ne décide pas de le devenir. Quand vous avez des gens qui décident de devenir collectionneur, qu'est-ce qu'ils vont acheter? Ça s'apprend, enfin, c'est
Non,
quelque
mais
chose qui est une longue.
l'art
C'est une
réveille,
vie, quel que soit son goût et ses choix.
Oui, mais l'art stimule énormément, donc que les gens aient accès à ça,
Oui, mais pas
ça
quand
ne
il est
fait
à la mode.
qu'évoluer plus les sociétés. Donc il faut qu'on fasse aussi des choses grandioses qui coûtent beaucoup
Oui, mais moi je
d'argent,
suis ravi de ça,
parce que
mais. Oui.
ça aussi va stimuler aussi
Moi ce que j'aimerais, c'est que l'art soit dans
les
la rue. Par
sociétés.
exemple, on est un pays où il y a, à part quelques bronzes 19e, il n'y a absolument rien dans les rues en France. Il pourrait y avoir des images mobiles, il pourrait y avoir des tas de choses dont il n'y a strictement rien. Puis il y a une autre remarque que je voulais faire sur toutes ces expositions d'art contemporain dans les musées classiques. Alors c'est aussi, ça s'explique aussi par le fait que l'art contemporain est à la mode. Moi j'ai des amis qui sont historiens de l'art, de la Renaissance, etc. Regardez Daniel Arras, qui était un type extraordinaire, je me suis engueulé une fois avec lui, parce que je me demandais, mais enfin pourquoi tu t'occupes d'art contemporain? J'aimerais tellement savoir tout ce que tu sais. Et il m'a engueulé, il m'a dit, en fait la grande tentation c'était l'art contemporain. Et moi ce qui me plairait, par exemple, c'est un petit peu comme dans les grands musées allemands, c'est qu'il y ait de temps en temps une peinture ancienne au palais de Tokyo, par exemple. Ça me manque énormément, ça me manque. Ce ghetto français m'ennuie terriblement. C'est le seul pays au monde où l'art contemporain est isolé. Alors il est isolé parce qu'il a fallu des militants pour le développer dans les années 80 parce qu'il n'existait rien, mais aujourd'hui ça suffit. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de voir Xavier Vélan à Versailles, je m'en contrefous. Qu'on le voit ailleurs, mais par contre j'aimerais bien voir Poussin au palais de Tokyo pour établir des relations et des ponts entre les choses.
S'interroger sur une couverture qui met un magnifique carrosse devant les fastes de Versailles, qui met en avant une production à un coût énorme, et qui a, imaginez qu'il y a un tout petit peu d'indécence là-dedans. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Moi j'ai une question, quel est le rôle de la presse, d'après vous alors?
Je voulais y venir en fait.
Parce qu'on parle d'un phénomène de mode, donc on ne peut pas parler de phénomène de mode en occultant complètement la presse. C'est la presse qui fait la couverture avec Jeff Koons, Xavier Veillant, Murakami ou autre. Alors, est-ce que la presse doit avoir un rôle pédagogique? Quel type de presse? Faut-il que les artistes interviennent plus souvent dans la presse? Faut-il que les collectionneurs, les galeristes interviennent également plus souvent? Quel est le rôle de la Gazette des Arts? Est-ce qu'il faudrait diffuser du Journal des Arts? Pardon, excusez-moi. Du Journal des Arts, est-ce qu'il faudrait diffuser différemment? Voilà, je pense que la presse a un grand rôle à jouer quand même.
Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus tirer une balle dans le pied. On a suffisamment pesté pendant des années en disant que l'art contemporain n'était pas présent dans la presse généraliste. Aujourd'hui, c'est vrai que s'il y a des articles, c'est parce que l'art contemporain fait partie d'un phénomène global, de mode, de style de vie, au même titre que la déco, par exemple, qui a des pages maintenant quasiment tous les magazines. Donc c'est un je pense que de ce point de vue-là, on ne peut pas dire, bon voilà, maintenant, c'est indécent qu'il y ait de l'art contemporain dans ce type de presse. Après, la presse spécialisée, c'est un tout autre travail, donc je pense que c'est absolument pas comparable. Mais pour revenir au rôle de la presse, qui à mon avis est extrêmement important, je pense que c'est aussi un rôle de légitimation. Jusqu'à présent, dans toutes ces discussions, on a parlé du marché, on a parlé des cotes. Pourquoi? Parce qu'en fait, depuis quelques années, on s'est rendu compte que si un artiste n'avait pas de cote sur le marché international de l'art, on avait l'impression qu'il ne valait rien. Parce qu'il y avait vraiment une très grande différence, à mon avis, entre la valeur vénale d'une œuvre et la valeur artistique d'une pièce. Ce qui est, à mon sens, assez différent très souvent. Et on le voit d'ailleurs très généralement avec les artistes historiques qui valent beaucoup moins cher que les artistes, les jeunes artistes à la mode dans telle ou telle galerie ou sur telle ou telle foire. La question aujourd'hui, c'est est-ce que dans cette crise, est-ce que l'on va avoir une nouvelle approche? Est-ce que la critique d'art, est-ce que les textes sur l'art, est-ce que la théorie de l'art va reprendre du poil de la bête? Est-ce qu'elle va reprendre une importance dans le choix que feront les collectionneurs pour acheter des artistes, par exemple? Bruno Henry.
L'importance des critiques, oui. Je pense que c'est effectivement... mais il y a toute une génération de jeunes critiques qui commencent à... Alors, des gens qui vous disent vous êtes collectionneur. On vous colle cette étiquette parce qu'on a commencé à acheter des choses. En plus, c'est un terme que j'aime pas. Je préfère le mot dilettante parce que c'est
un. C'est vrai, quand on vous dit ça, moi je dis toujours c'est pas un métier, collectionneur. Il y a Orlan qui dit toujours quand je serai grande, je serai collectionneuse. Mais elle met en 2009 d'ailleurs. Mais il y a une autre chose aussi par rapport. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, j'avais acheté un Tatiana trouvé, un polder chez Georges-Philippe Valois. Quand les gens venaient le voir chez moi, ils me disaient, bon, je comprends pas. Maintenant, depuis 2 ans, depuis qu'elle a eu le prix Marcel Duchamp, c'est 2 ans, non, 3 ans, on dit, ah ben c'est la seule pièce chez toi que je trouve bien. C'est étonnant. Pendant des années, on disait, t'es folle d'avoir acheté cette pièce. C'est sûr que bon, c'est pour ça, c'est ça qui est excitant, c'est d'aller avant tout ce phénomène-là et d'être avant toute cette vague-là. Et c'est ça qui est amusant, c'est que c'est ça qui apporte le piment à l'art contemporain.
Si tu veux leur prendre la pièce.
Laurent Godin, est-ce qu'avec la crise, la critique d'art a repris de l'importance?
J'ai pas l'impression, parce que c'est pas juste une crise de la critique d'art que l'on traverse, c'est une crise d'un modèle ou d'utopie. Donc, j'ai pas du tout, moi, le sentiment qu'il y ait, comme Bruno semble dire, vraiment une renaissance de la critique d'art, parce que la déliquescence, enfin, politiquement, on le voit tous les jours, quel projet alternatif se dessine vraiment, pas grand chose. Donc, non, j'ai pas l'impression que la critique d'art soit à l'image du rêve, enfin, soit capable de renaître ou d'apporter quelque chose. C'est un peu un désert, j'ai l'impression.
Ce qui est sûr tout de même, c'est qu'ils seront plus écoutés. C'est qu'a priori, enfin, ça rejoint un petit peu, je veux pas répéter ce que j'ai dit au tout début, mais ce qui est sûr, c'est que le marché va cesser de, à mon avis, dicter ses lois aux collectionneurs et ses arguments.
Souhaitons-le, mais en même temps, c'est...
Ce qui est sûr, c'est que quand certaines œuvres ultra spéculatives perdent entre 30 et 40% en un an, ça détruit tout de même très fortement l'argumentation qui fondait son acquisition. Donc ces choses-là vont faire quand même que très probablement, on va davantage écouter tel critique d'art, tel commissaire d'exposition, tel conservateur dans ses choix, qui sont plutôt des choix de pensée que des choix de marché. En tout cas, pour un temps.
Il y a une question dans la salle.
Bonsoir, je suis critique d'art aussi. Ne pensez-vous pas tout simplement au fait qu'il y a déjà une distinction à faire entre journaliste et critique d'art, déjà? Posez au moins la question de la visibilité de la critique d'art. Et tout à l'heure, en fait, vous posiez la question de la valeur financière, mais aussi valeur intellectuelle, comment attribuer une valeur intellectuelle, comment ménager le passage entre une valeur intellectuelle et une valeur financière. Il me semble que, enfin ne pensez-vous pas en tout cas, que ces trois endroits de production intellectuelle sont à penser ensemble et qu'un critique d'art, c'est pas un journaliste d'art. Ce qu'on voit dans la presse, ce sont des papiers qui sont là pour défendre une exposition, un événement, etc., mais qui n'a pas forcément les supports pour le développement de ce type de pensée. Des critiques d'art, des gens qui travaillent dans les universités, il y en a vraiment, hein. De la production de pensée, il y en a vraiment. Après, la visibilité de cette production de pensée-là, c'est autre chose. Et que celle-ci soit en connivence avec la partie émergée de l'iceberg qu'est le côté fashionable de l'art contemporain, ça c'est aussi une question. Enfin, il me semble que pour bien penser ces questions-là, en tout cas, il faut scinder le problème et le poser sans doute sous divers regards.
Bien sûr, mais je ne parlais pas du fait que la critique d'art n'existe pas. Pour moi, la critique est extrêmement active dans ce pays. On le voit effectivement dans les universités, à travers les blogs, à travers les revues qui sont souvent de diffusion assez restreinte, mais qui ont une vraie tenue. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas que la critique n'existe pas, c'est qu'elle n'est pas entendue ou elle n'est pas écoutée. Quand on interroge un grand nombre de collectionneurs qui achètent depuis, on dirait, 5 ou 6 ans, ce sont des gens qui ne lisent pas, qui n'ouvrent pas les magazines, qui ne regardent pas quels sont les artistes qui sont dans la presse. gens qui écoutaient des galeristes ou des conseillers, mais qui ne lisaient pas forcément la presse. Et c'est ces gens-là, en partie, qui ont fait monter les prix dans des foires. Tout à l'heure, je parlais de l'Arbaz de Miami Beach, mais c'est vraiment le cas. Ce sont des gens qui sont dans une approche décorative ou de prestige personnel, mais pas une vraie démarche de collectionneur engagé comme les gens qui sont autour de cette table.
Mais ne pensez-vous pas que là aussi il faille scinder la question? C'est-à-dire, vous parlez d'une partie du marché sur lequel on spécule, okay, c'est une partie relativement restreinte quand même de la production artistique. Je ne sais pas, moi je fais partie des gens qui pensent que faire de l'art, c'est être dans un territoire de recherche fondamentale. C'est proposer des représentations d'un présent qu'on est en train de vivre. Donc, là, c'est là que peut-être il y a la différence entre Poussin, Corot et les artistes aujourd'hui. Et les critiques d'art, quand ils produisent de la pensée à partir de cette production sensible de pensée qu'est l'art, ça veut dire sans doute qu'ils se moquent de conseiller les collectionneurs et les spéculateurs. On est dans une autre sphère. Ensuite, si les collectionneurs veulent s'intéresser à ça, c'est leur problème et leur question. Mais encore une fois, ce dont on parle, c'est sans doute d'un ancrage bien plus solide dans une conscience de pourquoi il y a des gens qui font de l'art hein, et pourquoi il y a ce type de préoccupation. Enfin, je ne sais pas, mais il me semble.
Et les critiques d'art ne sont pas là pour conseiller les collectionneurs. Hein. Et je crois que. Moi, je pense que les collectionneurs, il ne faut pas croire que. Bon, il y a des gens qui ne connaissent rien, mais il y a des gens qui lisent, qui fréquentent les musées. D'ailleurs, il y a des collectionneurs qui deviennent galeristes, et les galeristes connaissent bien leurs artistes. Je crois que quelqu'un qui s'intéresse à un artiste et à son travail, il connaît. Alors c'est sûr qu'on voit tout, mais je veux dire que les collectionneurs ne sont pas des gens qui lisent pas.
Ah non, mais je parlais des jeux. Non, ça ne me fait pas dire ça. Non, je parlais des gens qui ont entraîné la hausse des prix, notamment aux États-Unis, depuis 4 ou 5 ans.
Disparu cela et c'est
voilà
c'est une marge dont on c'est pas ce qui nous intéresse, c'est effectivement le marché extrêmement spéculatif, mais ce qui n'est pas le cas de Nadia, d'Antoine ou de
non, mais ce phénomène que vous décrivez a toujours existé, parce que même au 19e siècle sous Napoléon III, c'est la même chose. Quand on voit les prix qu'ont atteint les Bouguereau, hein, c'était il y avait une spéculation effrénée sur la peinture de Bouguereau qui a atteint des sommets, et je pense que quelqu'un a atteint des sommets à la dame Yaïrs ou Jeff Koons, et puis ensuite la cote de Bouguereau est complètement tombée, on pouvait acheter des Bouguereau pour trois fois rien il y a une trentaine d'années, puis la cote remonte un petit peu maintenant, mais ce phénomène, c'est pas un phénomène d'aujourd'hui, c'est un phénomène de cours peut-être, je ne sais pas, mais de toute façon c'est quelque chose qui a toujours existé, la spéculation sur les œuvres d'art, sur les artistes, et ça n'en a rien à la valeur de la peinture de Bouguereau, que moi j'apprécie personnellement beaucoup, parce que j'aime beaucoup cette peinture, mais donc ce phénomène, il n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de fait d'art contemporain. Alors la question encore l'air qu'on peut poser, est-ce qu'il y a une solution à travers les institutions? Est-ce que la valeur pédagogique du travail dans les institutions, dans les centres d'art, etc., ou que, bon, pour faire de la publicité au niveau de l'Institut d'art contemporain, une exposition comme Rencontre 2009, est-ce que ce n'est pas un remède contre la crise aujourd'hui et contre la spéculation que l'on connaît?
Je crois que si l'institution, elle est très importante, parce que pour prendre un exemple précis, Grenoble, c'est une ville moyenne, il y a un centre national de l'art contemporain qui est quand même quelque chose d'important, un musée qui a une collection extrêmement riche, et une école d'art qui a brillé et qui a sorti tous les jeunes artistes français qui comptent à l'étranger maintenant. Donc, ce triumvirat fait qu'il y a un nid de collectionneurs qui ont été formés, qui ont été par la fréquentation, alors qu'on pourrait aller au ski ou jouer au tennis. Hein. Et c'est vrai que Grenoble, c'est un. Puis en plus, il y avait Antoine. Quoi. Donc, l'institution est très importante. Et il suffit de se promener dans les musées. Moi, j'étais à Marseille été à Arles vendredi après pour les rencontres de la photographie, c'était envahi de scolaires. Et ça, ça fait un plaisir fou, quoi, parce qu'il y avait les gosses qui étaient là. J'étais bien plus content par le beau temps qu'ils faisaient d'être à Arles plutôt que d'être en classe. Mais il y avait leurs profs et il y avait des médiateurs culturels qui leur expliquaient, c'était interactif, qui leur posaient des questions. Et c'est comme ça que ça passe. Et c'est sûr que si vous êtes, je ne sais pas, dans un trou perdu et qu'il n'y a pas de musée, c'est un peu compliqué. Alors que si vous êtes dans une ville ou dans une région qui a une offre culturelle importante, ça développe forcément des sensibilités.
Alors comme vient de le dire Poney Henry, effectivement, les institutions créent de la pédagogie, qui créent des collectionneurs, mais en même temps, d'un autre côté, les collectionneurs aussi aident de plus en plus les institutions, n'est-ce pas, Média Candomblé ?
Oui, c'est vrai que de plus en plus, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une évolution et l'institution travaille main dans la main avec les privés. Et de plus en plus, on fait appel à des fondations privées ou même des indépendants. On reçoit des demandes très spécifiques pour l'aide au catalogue ou l'aide à l'exposition. Et je trouve qu'il y a vraiment une imbrication comme un puzzle. S'il manque une partie du budget, automatiquement, on s'adresse au privé et d'une façon très fluide.
Oui, au fond, tout à l'heure, je ne me suis pas totalement fait comprendre en dehors de mon effet de rentrer sur cette couverture de ce journal, mais parce que, au fond, c'est cette relation à l'État dont je voulais aussi parler, en disant que c'est pas le prescripteur, justement. Et c'est, dans mon cas, étant financé au tiers de mon budget par l'État, non pas en danger, mais je le dis, ma quête, pour moi, en tous les cas, ce que vous dites, Nadia, c'est tout à fait juste, c'est seulement en train de balbutier, c'est depuis 20 ans d'arriver au minimum à ce qu'il y a plus qu'on situe en Allemagne avec la mixité des financements public et privé. Je pense que les structures d'art contemporain, particulièrement d'art plastique et visuel, je ne parle pas du spectacle vivant, je ne sais pas en parler, je n'ai pas les éléments pour, mais je crois que précisément dans ce domaine de l'expression artistique, cet équilibre des finances serait le plus souhaitable pour notre fonctionnement, et c'est dans ce sens-là, d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'on se retrouve ensemble ce soir, je pense que tout ça fait sens. Et donc voilà, c'est ça qu'il faudrait pouvoir profiter, j'allais dire presque, de la crise pour aussi trouver de cette manière-là une façon de travailler ensemble, mais pas seulement parce qu'on cherche de l'argent de façon à corps perdu, mais parce que c'est ensemble un but commun. Et là, en France, on a balbutié, mais encore récemment, en pensant que le mécénat n'était que d'entreprise, mais le mécénat, c'est une histoire d'individu, c'est une histoire de personne, c'est une histoire d'engagement, c'est ce que vous disiez, c'est une histoire de vie. Donc, qu'est-ce que c'est que l'entreprise X après le départ du PDG machin ? Parfois, ça marche.
Et là, on le voit énormément, parce que finalement, le collectionneur aujourd'hui n'achète pas spécifiquement une œuvre pour lui ou pour son intérieur ou pour monter sa collection ou pour ses réserves. Ce qu'on voit énormément, c'est vraiment des engagements privés. Moi, je reçois quelques coups de fil. Si je ne peux pas aider personnellement, je fais des ramifications sur les personnes sur lesquelles elles peuvent à ce moment-là. Et je trouve qu'il y a un changement, mais radical, ces trois dernières années, mais fulgurante. Enfin, les fondations, ils s'en ouvrent énormément, donc, avec des prix à l'appui, enfin, c'est assez spectaculaire, je trouve, ce qui se passe.
Répondre à Nathalie Arginot aussi, parce que je crois que vous avez fait votre carrière dans le public essentiellement, enfin à Marseille, etc. Ce que vous dites est très important, mais tous les acteurs du monde du service public ne pensent pas à ce que vous pensez. Moi, je suis tout à fait pour le mécénat, enfin ce serait absurde de dire l'inverse, mais pour un très grand nombre de hauts fonctionnaires, le mécénat n'est là que pour donner de l'argent. C'est-à-dire, on a besoin de faire une expo Picasso, on va appeler LVMH, on va appeler machin. Ce n'est que ça. Et les lois sur l'entreprise, ce n'est que ça. C'est une défiscalisation, c'est pas un engagement mécénal, c'est pas encore ça. Quoi.
C'est pour ça que
et, mais en revanche, moi j'ai condamné Versailles parce que je pense que en revanche c'était pas un mécénat intelligent, c'était une mise en péril du pouvoir culturel de l'État.
Confisqué par le privé. Parce
voilà.
que l'injonction, elle est là.
Il faut trouver la juste mesure, l'intelligence.
Et en plus, on n'a pas eu le Saatchi qu'on rêvait.
Il faut inventer un système à la française, mais entre l'Amérique et ce qu'on a actuellement, il y a du chemin. Puis je voudrais aussi juste dire un mot à vous, mademoiselle, qui êtes historienne de l'art. Parce que ce que vous avez dit, c'est évidemment essentiel. Mais nous, on est invités pour parler de marché. Et on n'est pas invités. Mais ce que vous avez dit me touche beaucoup parce que moi j'ai toujours tendance à, quand j'interviens comme ça, à faire deux cercles. Et puis même dans ma vie, et puis à la Maison Rouge, et dans tout ce qu'on essaye de faire, je fais deux cercles, comme la théorie des ensembles. Je fais un cercle sur la création et un cercle sur le marché. L'intersection de ces deux cercles, c'est effectivement le marché qui est dans la création, la création qui est dans le marché, c'est l'idéal. Évidemment, les grands collectionneurs devraient être dans cette intersection. Mais au moins, l'important, c'est qu'on soit tous dans la partie création, dans le marché ou pas. Et c'est ce que vous disiez. Et donc, il faut parler de ça. Et il y a dans le marché des artistes formidables qui méritent tout à fait d'y être, qui y seront peut-être plus. Et il y a dans ce cercle de la création, des gens qui un jour y seront. Donc un bon collectionneur, un vrai collectionneur, il doit savoir acheter aussi bien à Lyon qu'à Bourg-en-Bresse qu'à New York, s'il décèle quelque chose d'intéressant, parce que de toute façon, s'il y a intelligence, il y aura un jour marché. Enfin, il y a quand même une certaine moralité intellectuelle dans le marché aussi. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'était clair, mais...
Moi, je voulais juste simplement insister, en fait, comme vous ressassiez ce moment de crise, crise financière, oui, mais il me semblait important, en fait, juste de remettre le truc que le noyau, sans doute, est dans ces préoccupations-là. Le noyau, c'est sans doute pas la spéculation, l'hypermarché, Miami Beach, etc. Et juste le reposer de temps en temps. Je suis historienne de l'art, je suis critique d'art, journaliste, éditrice, enfin, je suis assez active, je pense, membre de la commission IAC. Je fais pas mal de choses de manière assez active, je crois, mais il me semble simplement de resignaler ce noyau dur, parce que la crise, c'est sans doute aussi un problème de redéfinition intellectuelle, de perspective et de définition de territoire d'action qui sont des vues sur la société, etc. etc. C'est un gros chantier dans lequel l'économie, la création artistique, enfin, sont imbriquées. Et ce sont des reflets, donc c'est... Et par rapport à ce que disait Nathalie, il me semble que c'est extrêmement important, enfin, et qu'il y a peut-être un truc un petit peu arriéré en France, d'opposer systématiquement le privé au public, effectivement, et que ça fait partie de ces modèles qui sont déconstruction, reconstruction, etc. C'est ce noyau dur dont je crois pas d'accord.
Non, je vous prie, mais en réalité, il n'est pas vraiment opposé, parce que moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a dans le monde privé des gens qui sont de formation publique, c'est-à-dire par exemple LVMH, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un musée. Ils ont embauché Suzanne Paget, qui est une très grande figure de l'art, mais qui fait une carrière publique. Et puis il y a dans le monde public des gens qui ont cette fêlure, cette liberté, peut-être qu'on trouve dans le monde privé. Donc c'est à peu près comme si on parlait encore d'abstraction, de figuration 50 ans après. Quoi. Moi, j'en parle plus du public et du privé. Et d'ailleurs, moi, je suis dans des commissions publiques. Je dis ce que je pense. Enfin, je crois que c'est ça change beaucoup, quand même, je trouve.
Bien, bah, je vous remercie parce que je crois qu'on doit libérer la salle. Donc, je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Je voudrais encore une fois remercier les intervenants, Nadia Candé, Laurent Godin, Georges-Philippe Valois.